Cap Sport se met en mode combat aujourd'hui dans la Sûre. Tout d'abord, puisque nous parlerons de la fête de lutte du Jura bernois qui se tient ce week-end. On abordera également la question du développement de cette pratique dans l'arc jurassien. Place ensuite au combat toujours, mais sur tatami cette fois, avec un stage international d'arts martiaux qui se tient à Signes-Légier. Plusieurs grands maîtres européens seront de la partie. L'occasion, là encore, de faire un point sur la santé de ces sports dans notre région. Enfin, nous parlerons football. Dimanche a lieu la finale de la Coupe de Suisse entre Bâle et Thun. L'occasion pour les Rhénans de sauver leur saison et pour les Oberlandais de confirmer leur bonne disposition. Cap Sport, c'est parti. On est ensemble jusqu'à 19h.
Cap Sport, Michel Léoni.
Bonjour et bienvenue dans Cap Sport. Sans plus tarder, on s'attrape par la culotte, oui, puisqu'on va parler de lutte. La 92e fête de lutte du Jura bernois se tient ce dimanche à Péry. Samedi, ce sont les jeunes lutteurs qui seront à l'honneur, toujours dans la Sûre du Jura bernois. C'est l'occasion pour nous de faire le point sur le développement de ce sport dans la région, avec le président de l'association du Jura bernois, Reinhard Jossen, celui de Neuchâtel, Patrick Blanc, et celui du Jura, Jean Leuenberger. Bonjour messieurs.
Bien le bonjour. Bonjour, salut les bonjour. Copains.
On va commencer avec vous, Reinhard Jossen, si vous le voulez bien, puisque vous êtes en pleine effervescence hein, avec cette fête de lutte du Jura bernois. Quels sont les grands noms de ce sport qui seront de la partie dimanche?
Alors dimanche, on a le plus grand nom, c'est Kylian Wenger, qui sera sur la place, le roi de la lutte 2010 à Frauenfeld. Il y a encore 7 couronnés fédéraux autres qui sont aussi sur place, notamment Raymond Heiser, Saint-Par Thomas, Kent Bernard, Nagui Florian, Rod Philippe et puis Schenk Patrick. Alors c'est vraiment un peloton très très fort.
Et Patrick Blanc, vous organisez également une fête cantonale dans un mois à Neuchâtel. Quelle est l'importance de ces deux fêtes dans l'arc jurassien?
Alors pour nous lutteurs, chaque fête cantonale est importante, car c'est une manifestation unique, remise de couronne aux meilleurs lutteurs de 15 à 18% des meilleurs lutteurs. De plus, cette année est une année de fédéral, donc les lutteurs se qualifient pour Zug. La fête aura lieu les 22, 24, 23, 24 et 25 août à Zug.
Jean-Leuenberger, on a parlé de cette fête de lutte du Jura bernois hein, qui a lieu dans quelques heures maintenant du côté de Péry. Il y aura la même, si on veut bien, dans un mois du côté de Neuchâtel. Est-ce que c'est envisageable qu'un jour ce type de fête débarque dans le Jura?
Alors oui, on a fin de l'année passée, on a mis en place un comité pour organiser une fête de lutte. On a commencé à débuter début de l'année les préparations pour cet événement qui aura lieu le 6 juin 2020.
Donc c'est sur les rails, il y aura bien une fête de lutte dans le Jura, ce sera une première hein?
Ce sera une première, tout à fait, oui.
Patrick Blanc, la lutte, c'est un sport qui draine les foules en Suisse alémanique principalement. Qu'est-ce qu'il en est des manifestations romandes? Est-ce qu'on arrive là également à remplir les gradins?
Au niveau roman, les spectateurs se déplacent moins qu'en Suisse alémanique, mais l'engouement est en constante augmentation.
Ça veut dire concrètement que quand on organise une fête de lutte, on rentre en général dans ses frais?
Tout à fait, on rentre plus que dans ses frais.
Reinhard Jossen, dans une fête de lutte comme celle du Jura bernois qui a lieu ce week-end, c'est facile d'attirer les meilleurs lutteurs du pays. Est-ce qu'on arrive à les convaincre facilement?
Alors, en principe, ces lutteurs sont libres de choisir leur fête où ils veulent participer. Mais en règle générale, ça se répartit assez bien qu'à chaque fête de lutte, il y a quand même quelques très forts lutteurs qui participent. Alors, c'est quelque chose qui se fait... traditionnellement, on n'a pas besoin de faire exprès du travail pour ça.
Alors, et la fête de lutte du Jura bernois qui se tient dans quelques heures maintenant du côté de Péry, quelle place est là parmi les autres fêtes de lutte d'un point de vue national?
Alors on peut comparer la fête de lutte du Jura bernois, c'est comparable par exemple pas comme une fête cantonale neuchâtelois ou une fête cantonale dans les autres associations. C'est une fête à couronne. Et puis, c'est un peu dans ce style-là.
Patrick Blanc, de votre côté, vous arrivez également à tirer de grandes figures de la lutte dans notre pays à votre fête cantonale?
Bien entendu, nous arrivons à faire venir de grands noms chez nous aussi. De toute manière, tous les lutteurs sont importants, du plus fort au plus faible. Les 15 et 16 juin, à la vue des Alpes, vous allez pouvoir admirer environ 300 lutteurs lors de la fête cantonale neuchâteloise. Deux lutteurs écossais et un lutteur breton viennent, plus le club de Tavannes et tous les clubs romans. Bien entendu, il y a le corps des Alpes, les sonneurs de cloches, la fanfare militaire pour la remise de la bannière, orchestre champêtre, et bien entendu, vu que c'est la vue, il y aura un temps magnifique.
Et on y reviendra tout à l'heure à ces traditions qui suivent, hein, si on veut bien, ces joutes. On a parlé tout à l'heure des Maelstrom ou encore Kilian Wenger, mais la lutte, ce n'est pas que ça, hein, Jean Leuenberger, c'est également une relève. Et d'ailleurs, il y a toute une journée qui sera dédiée ce samedi à Péry. Comment est-ce qu'on fait pour mettre en vitrine la lutte à côté du football, du hockey, par exemple, hein, qui sont des sports très médiatisés?
Donc, il faut savoir que chaque année, il y a une journée nationale d'initiation à la lutte suisse qui est organisée la dernière semaine du mois d'août pour promouvoir ce sport. Et puis nous, on y participe chaque année. Donc cette année, ce sera le samedi 31 août.
Patrick Blanc, est-ce qu'en général, du côté de Neuchâtel, vous arrivez à attirer la jeunesse assez facilement?
Oui, nous avons passablement de jeunes qui s'inscrivent. Par contre, comme pour tous les sports, pas facile de les garder à la puberté, car ils ont tellement de choix.
Reinhard Thiossen, quelles qualités sont requises pour devenir un bon lutteur?
La première chose, il faut avoir plaisir à la lutte, hein. Sinon, je pense que ça ne vaut pas la peine. Mais après, il y a des différentes choses. Je pense que c'est bien si on est un petit peu carrure, ça aide. Mais après, je pense que le plus important, c'est d'avoir le plaisir.
Alors, il y a plusieurs valeurs, hein. On l'a entendu tout à l'heure avec Patrick Blanc, qui entoure la lutte. La première, c'est certainement le patriotisme. Pourquoi est-ce que c'est si important, Jean Leuenberger?
Parce que c'est un sport suisse qui a été créé et inventé en Suisse, et c'est pour ces raisons que les valeurs de notre pays prennent une place importante dans ce sport traditionnel.
Reinhard Thiossen, cette notion de patriotisme, elle dépasse le sport, hein, finalement, puisqu'en parallèle des combats, il y a une vraie manifestation qui est mise sur pied à Péry. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire?
Oui, alors en effet, je pense que c'est pas pour rien qu'on appelle une fête de lutte une fête de lutte, et puis c'est pas seulement un championnat ou des combats. À part le sport, il y a une fête qui se monte autour, et puis c'est aussi très très important de vivre ça.
Patrick Blanc, une fête de lutte sans véritable manifestation autour, avec que des combats, ce serait pas vraiment une fête de lutte?
En aucun cas.
Quels sont les ingrédients finalement qui sont...
Alors en premier lieu, il vous faut 4 ronds de 12 mètres de diamètre, 100 mètres cubes de sciure, plus les lutteurs et les arbitres. Il y a aussi, comme je l'ai relevé avant, des animations folkloriques, à manger, à boire, bien entendu, et puis beaucoup de bonne humeur.
Patrick Blanc, toujours, hein, cette importance de la tradition, cela veut dire que ce sport est réservé aux Suisses, qu'on ne verra jamais forcément d'autres lutteurs étrangers. Ou alors, vous l'avez dit vous, hein, vous aurez des Écossais dans votre sillure du côté de Neuchâtel. Comment ça se passe, cette tradition, finalement, qui n'en est plus vraiment une, si on l'ouvre aux autres?
Pour ma part, il n'y a pas que des Suisses. Hein. Nous pouvons bien entendu avoir des lutteurs venant d'autres régions. Simplement, ils doivent être assurés et lutter dans un club de lutte suisse de notre région. Par exemple, à la fête fédérale de Zoug, il y aura des lutteurs qui viennent d'autres pays, une dizaine de lutteurs.
Jean Leuenberger, en quoi c'est important finalement de faire en sorte que tous les lutteurs qui pratiquent la lutte soient apparentés à des clubs helvétiques?
C'est pour surtout les reconnaître, savoir de quelle région ils viennent. Et puis c'est comme une famille, un club c'est une famille, puis tout le monde se soutient. Et puis à une fête de lutte, chaque lutteur soutient son collègue.
Donc c'est impossible de voir par exemple un jour des lutteurs français ou des lutteurs asiatiques par exemple, pourquoi pas débarquer en Suisse pour une fête fédérale?
Bien sûr, alors il y a des lutteurs au Canada, et puis il peut y avoir des lutteurs de tous les pays, pourvu qu'ils fassent partie d'un club et puis qu'ils soient assurés.
Reinhard Thiossen, quand on passe à la lutte, on pense à cet tas de muscles masculins qui se jettent dans la sciure, mais est-ce qu'il y a de la place également pour les femmes dans votre sport?
Oui, alors ça fait depuis très longtemps la lutte des femmes, ça existe. Mais si on veut bien, c'est comme dans les autres sports aussi, c'est une association à part. Alors ils ont leur fête de lutte à eux-mêmes. Ben, c'est aussi logique, hein. On ne peut pas droit faire lutter une femme avec un homme, hein. Ça irait pas très bien. Mais ils ont aussi, je pense, qu'une vingtaine de fêtes durant l'année. Mais comme c'est dans les autres sports, il y a une association pour les femmes, une association pour les hommes. Mais ça fait déjà un moment que la lutte avec les femmes, c'est aussi ouvert et puis c'est reconnu.
Il est dans un développement positif?
Ah, pour moi, oui. Après, ça peut-être pas tout le monde le voit la même chose, mais moi, oui, je pense que c'est très bien.
Jean Leuenberger, de manière générale, si on prend vraiment le point de vue de l'arc jurassien, quelle est la progression qu'on peut envisager pour ce sport dans la région? Est-ce qu'il y a encore une marge de progression?
Alors oui, il y a une très grande marge de progression. Là, pour l'instant, on vient de commencer, ça fait une année et demie qu'on est sur pied. Des jeunes lutteurs, on a une quinzaine de jeunes lutteurs, plus 8 lutteurs actifs. Dans les lutteurs actifs, c'est plus difficile de les faire aller aux fêtes de lutte, vu qu'ils commencent plus tard, ils sont pas mal occupés. Mais les jeunes, ça progresse bien, puis il y a encore un grand potentiel.
Reinhard Thiossen, du côté du Jura bernois aussi, vous sentez un potentiel pour que la lutte prenne encore davantage d'ampleur dans le Jura bernois?
Oui, alors effectivement, puis je pense que bon, c'est toujours un peu des vagues, hein, y a des hauts et puis des bas, mais en général, c'est plutôt à la hausse, et puis oui, il y a encore du potentiel.
Patrick Blanc, quels sont les moyens que vous voyez et qu'on peut mettre en place pour pérenniser et puis même développer cette tradition dans l'arc jurassien?
Pour moi, il est évident, il faut tirer à la même corde. Hein. Chacun sait que c'est l'union de tout ce qui aide au développement d'un but. Bien entendu, en parler dans les écoles, avoir de l'aide de nos autorités et aussi avoir de l'aide des médias, comme vous faites ce soir, nous soutenir avec cette interview.
Jean-Louis Berger, vous qui êtes relativement nouveau, hein, vous l'avez dit, à peine plus d'une année que votre association existe dans le Jura. Est-ce que là, vous sentez l'appui des autorités pour permettre de vous développer?
Alors oui, on a pas mal d'appui. Puis il y a pas mal de sociétés, comme par exemple le Passeport Vacances, qui nous a proposé de se présenter. Déjà l'année passée, on a participé. Et cette année, on va renouveler cette action.
Bien, merci messieurs d'avoir pris quelques instants en direct avec nous. On rappelle que la fête de lutte du Jura bernois est un événement qui a lieu ce week-end à Péry. Samedi dès 8h, c'est la fête de lutte des jeunes lutteurs. Et dimanche, toujours dès 8h, la 92e fête de lutte du Jura bernois. Vous pouvez retrouver toutes les informations en ligne sur fetedelutte-du-jura-bernois.ch. Merci.
Jusqu'à 19h, Cap Sport.
On reste dans les sports de combat, mais on évite de trop salir et on se met bien au chaud et au sec. Cette fois, le club de judo-karaté des Franches-Montagnes organise ce week-end un stage international d'arts martiaux au centre de loisirs de Seignelay-Légiers. 9 grands maîtres européens actifs dans plusieurs disciplines seront de la partie. Les sports de combat se développent au fil des années. On fait le point avec l'organisateur de cette journée, Cédric Chollet.
Il y a beaucoup d'évolutions en fait dans des disciplines qui se créent en fait en plus. Judo, jiu-jitsu, karaté, ça c'est des disciplines qui existent depuis longtemps. Et puis maintenant, il y a des disciplines qui viennent se créer comme le kwando. Typiquement, on en a un représentant de la course qui sera là. Le kwando, en fait, c'est tout un mélange de self-défense. Donc c'est des techniques en fait qui sont déjà existantes, qui viennent des arts martiaux japonais également. Et puis en fait, qui sont créés avec d'autres arts martiaux, d'autres sports de combat ou arts martiaux pour créer en fait une entité à elle-même. Donc typiquement, le kwando, c'est un mélange de self-défense, de karaté, de boxe. On aura du combat russe, c'est aussi un mélange de sambo, de boxe et puis de jiu-jitsu.
Comment est-ce que vous arrivez à expliquer ça, cette arrivée massive de différentes disciplines dans les arts martiaux?
C'est beaucoup des sports qui sont plus pratiqués par les jeunes, parce que les jeunes veulent plus de contact. Alors que tout ce qui est judo, jiu-jitsu, on fait beaucoup de projections, de travail au sol, d'étranglement, de clés. C'est un peu plus minutieux, parce que on n'arrive pas à faire une clé directement comme ça après l'avoir vue. C'est des années et des années de travail pour arriver à des points qui sont bien définis. C'est peut-être ça qui intéresse un peu moins les jeunes.
Vous parlez justement de la volonté des jeunes de pratiquer des sports de combat, on va dire entre guillemets, plus violents. On a eu dans certains sports, on parle du rugby, également de la boxe ou certains sports de combat très violents. On a vu des commotions, voire même plus graves, des décès liés aux coups qui sont reçus. Vous portez une attention particulière dans votre club à la sécurité de tous ces combattants?
Oui, alors de toute manière, tout ce qui se fait dans le club, on le fait vraiment en sécurité. On a vraiment des prises avec des projections qui sont assez violentes, entre guillemets. Elles sont tellement rapides que ça surprend. La personne qui ne se sent pas pour chuter, on enchaîne sur une autre prise, un peu plus souple. Tout ce qui est clé et étranglement, on montre la clé, mais on ne va pas insister pour justement que la personne ait mal. Le but du jeu, c'est qu'il sente la clé, parce que si on ne la sent pas, on n'arrivera jamais à la faire. Il faut qu'il sente une clé avec un petit peu, une petite douleur, mais légère, et puis après, on stoppe. Les entraînements, c'est ça. C'est juste pour pratiquer le mouvement. Nous, on ne cherche pas à détruire.
Ce premier stage international d'arts martiaux a donc lieu ce week-end à Seignelay-Légiers. Il réunira 9 grands maîtres de Suisse, d'Italie, de Belgique, d'Allemagne et de France.
Cap Sport.
Enfin, pour notre troisième et dernière partie, on va parler football. Ce dimanche a lieu la finale de la Coupe de Suisse et pas de trace de l'équipe qui écrase tout en ce moment. Non, pas de Young Boys à l'affiche. Le duel pour le trophée mettra aux prises un habitué, le FC Bâle, 12 victoires en Coupe de Suisse, et le FC Thun, une seule finale disputée et perdue il y a plus de 60 ans. Le FCB a écarté de sa route deux équipes de Super League, Sion et Zurich. Thun en a fait de même avec deux autres formations de l'élite, Lucerne et Lugano. La finale a donc lieu ce dimanche à 14h à Berne. Pour évoquer ce duel, on accueille en direct par téléphone notre consultant Cyril Maillard. Bonjour.
Bonjour Michel.
C'est une finale qui paraît, sur le papier en tout cas, un peu déséquilibrée. Est-ce que le sera aussi sur le terrain d'après vous?
En tout cas, les forces en présence actuellement, si on tient compte des derniers résultats, sont très très favorables pour le FC Bâle. En effet, ça fait depuis 2 mois et demi, Thun n'a gagné que 2 matchs, dont un en coupe à Lucerne. Mais on sait qu'au football, on l'a vu récemment en France, Paris Saint-Germain qui était grand grand favori, qui s'est incliné face à Rennes au pénalty. Donc au départ, c'est clair que Bâle sera largement favori par rapport surtout au deuxième tour que fait Thun, qui est une équipe très très surprenante dans la première phase du championnat et qui la marque le pas et s'est sauvé, on va dire, la semaine dernière lorsqu'on a gagné 1-0 à la maison contre Lugano. Et c'est vrai qu'en ayant discuté avec une personne responsable, ils craignaient énormément de devoir encore se battre ce mercredi et la semaine prochaine pour se maintenir. Et là, maintenant, c'est déjà un soulagement. Ils mettent en place à cette cerise sur le gâteau pour le FC Thun. C'est quelque chose d'extraordinaire pour tout l'Oberland.
Quel rôle, finalement, la forme du moment peut jouer dans un tel événement?
C'est surtout au niveau de la confiance. Hein. Je veux dire, actuellement, Bâle a retrouvé un petit peu ses lustres d'antan par sa défaite à Young Boys récemment. Elle retrouve le chemin des filets. A des gars comme Van Volzinkel et Ayeti qui marquent considérablement beaucoup de buts. Elle a retrouvé un style de jeu. Elle est très offensive. Et si on connaît Bâle, quand ils sont en confiance, c'est difficile de les déranger.
Vous avez parlé de confiance du côté du FC Bâle. Cyril, où se fera la différence d'après vous dans ce match?
La différence, elle peut se faire du fait qu'on joue sur un terrain synthétique. D'ailleurs, les Ballois se sont un peu plaints de cet état de fait. C'est-à-dire qu'une finale de Coupe Suisse, c'est vrai que c'est un avantage quand même indéniable en termes de surface pour le FC Thun, qui a l'habitude de jouer sur un terrain synthétique. Mais on le sait, Bâle a déjà gagné à Thun en championnat. Bâle est capable de s'imposer un peu sur tous les types de terrain. Mais c'est peut-être le petit avantage, je dirais, qui pourrait jouer en faveur du FC Thun.
Il y a eu, pas une polémique, mais en tout cas un petit début de polémique du côté des bords du Rhin par rapport à ce terrain synthétique. Vous trouvez ça légitime qu'on force finalement une équipe qui habituellement joue sur un terrain traditionnel d'évoluer sur un synthétique? Est-ce qu'on devrait finalement pas faire le contraire?
Oui, on peut se poser la question. Après, c'est pas uniquement la surface qui fait qu'on a choisi le Stade de Suisse. C'est aussi des fois qu'aujourd'hui, il y a peu de clubs ou de villes qui veulent accueillir la Coupe Suisse parce qu'il y a pas mal de débordements, il y a pas mal de sécurité à mettre en place. Et récemment, ça avait été joué à Bâle il n'y a pas tellement longtemps, mais on sait que ça a été aussi compliqué récemment quand il y a eu la finale Bâle contre Sion. Et aujourd'hui, il y a une décision qui a été faite. C'est clair que ça désavantage un petit peu les équipes qui ont un terrain en herbe. Personnellement, je préfère le foot sur l'herbe. C'est un football le plus naturel et un peu plus normal. Ça manque un petit peu sur synthétique, ça manque ne serait-ce que les odeurs du gazon, ne serait-ce que cette idée de football avec tout ce que ça implique. Le terrain synthétique a quelque chose de limité, on a un peu l'impression de se retrouver sur un tapis, un petit peu comme dans une salle. Alors, à voir, mais je sais très bien aussi que ces équipes-là savent s'adapter. À Bâle, il y a des terrains synthétiques, donc ils vont se préparer en conséquence. Ça, c'est plutôt une polémique pour mettre un peu la pression sur Thun en disant, voilà, ils sont avantagés. Et mettre dégagé un petit peu en touche le fait que Bâle sera largement favori.
Si on en revient à l'aspect purement sportif, hein, quelles sont les qualités de ce FC Thun pour contrecarrer le FC Bâle d'après vous?
Disons que le problème, c'est que Thun est privé de son principal atout qui est Eddy Guerre, qui était vraiment le rassembleur, le capitaine de cette équipe. Manque de chance, le deuxième capitaine Glarner est également suspendu pour ce match. Ce qui fait que quand il vous manque les hommes forts, ceux qui sont capables de tirer la barque de leur côté, qui sont capables également de motiver les troupes quand il le faut, et surtout lorsque on a vu que Thun a commencé à perdre pied dans ce championnat, ça s'est joué à couteau tiré. Il a fallu juste une victoire contre Lugano, mais on a vu que ce mercredi, Thun a joué avec son équipe type, a perdu 3-0 à Zurich, un peu inquiétant quand même, je dirais, dans l'état de forme, et le fait qu'elle n'arrive pas réellement à retrouver ses bases du premier tour. Et je pense que l'absence de l'un ou l'autre joueur clé en est la conséquence.
Alors d'un côté l'absence de forme de l'équipe de Thun, de l'autre peut-être une certaine pression qui entoure le FC Bâle. Il y a beaucoup d'attentes sur les bords du Rhin par rapport à ce match hein, pour ne pas revivre une saison blanche. Ça peut peser ça d'après vous dans le jeu bâlois?
Relativement peu, parce que si on prend la liste des joueurs qui composent cette équipe, c'est quand même tous des joueurs qui soit sont internationaux, ont vécu des Coupes du Monde, ont vécu des grands matchs. Donc je ne pense pas qu'il y a une pression qui soit trop difficile à gérer. Simplement, le fait que d'un côté, vous avez l'Ogre Bâlois avec un budget de presque 80 millions, et puis de l'autre côté, le petit Thun avec 12 millions, forcément, ça fait un petit peu peur. Et puis on se dit, voilà, comment on va se faire manger le petit Thun. Mais en même temps, ça reste un match de foot. Et comme je l'ai dit, souvent, c'est des fois, il y a une surprise, puis il y a des faits de jeu. Il peut y avoir une exclusion après 5 minutes et Thun peut en profiter. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on voit jouer Bâle qui s'est permis de pratiquement jouer avec son équipe B mercredi soir, on se dit que la tâche pour Thun sera très très haute.
On l'a dit, hein, d'un côté, il y a l'expérience, hein, 12 victoires de Coupe de Suisse pour l'FC Bâle. De l'autre côté, il y a le FC Thun qui n'a pas vraiment, voire pas du tout, l'habitude de ce genre de match couperet. Est-ce qu'on peut s'attendre de ce côté-là à avoir des Bernois un peu crispés par l'enjeu?
Certainement, certainement, même parce qu'en même temps, elle joue dans son canton, elle joue très proche de la maison, ça va être une fête populaire, une liesse populaire, parce que souvenez-vous, il y a à peu près une dizaine d'années, ou un peu plus, peut-être 15 ans, lorsque Thun avait fait cet exploit de Champions League et s'était vu obligé de jouer à Berne ses matchs, ça avait été aussi une fête incroyable, et Thun avait su quand même relever ce défi. C'est vrai que Thun pourrait rentrer dans l'histoire en gagnant cette finale, ce serait magique. Personnellement, c'est un club que j'apprécie beaucoup parce que j'ai de très bons contacts avec eux et je trouve la manière dont ils travaillent, c'est extraordinaire parce qu'ils ont presque le plus petit budget à part Xamax, presque le plus petit budget et chaque année, ils nous surprennent par un état d'esprit et un travail extraordinaire et je dois dire que ce serait incroyable et ce serait quelque part un petit peu, ça récompenserait tout ce travail dans l'ombre que font les Oberlandais.
Mais à quoi c'est dû finalement? Quel est ce travail dans l'ombre, justement, vous qui connaissez relativement bien ce club?
Je dirais que les gens, spécialement les staffs techniques, et en particulier Gerber, le directeur sportif, s'impliquent énormément. Ils anticipent beaucoup les choses. Donc, ils travaillent beaucoup, ils vont beaucoup observer. Ils ne se trompent que rarement sur les transferts qu'ils font. D'ailleurs, on peut voir le nombre de joueurs qui passent partout et ensuite sont transférés ailleurs. D'ailleurs, eBay profite largement de ce phénomène-là, parce que si on pense à Fasnacht, si on pense maintenant à Spielmann et à d'autres, il y a beaucoup de joueurs qui transitent. Stephen également transite par Thun, parce qu'ils les mettent en vitrine et puis derrière, ils peuvent revendre. Donc c'est un peu un système qui fait qu'ils sont souvent, ils observent et scoutent en Challenge League, voire en Première League, puisque Sorgic, qui est le meilleur buteur de Thun, vient de Kriens, qui était à l'époque en Première League. Donc ça veut dire qu'ils ont un système de recrutement qui est performant. Et puis dans le staff, pour les avoir vus travailler, ils communiquent énormément. C'est une grande famille, le FC Thun. Vous allez jouer avec les moins de 18, vous avez des gars de la première qui sont là, vous avez des dirigeants de la première ou même du staff de la première équipe qui sont là, qui connaissent les joueurs parce qu'ils savent que peut-être ce sont les futurs joueurs de la première équipe. Donc je pense que c'est un peu un tout qui fait qu'aujourd'hui, ce qui se passe à Thun, c'est finalement une juste récompense. Et peut-être que dimanche, on va peut-être vivre quelque chose d'extraordinaire.
Eh bien, merci Cyril Maillard d'avoir été en direct avec nous. On vous souhaite un très bon week-end et on vous rappelle que la finale de la Coupe de Suisse, c'est ce dimanche à 14h à Berne entre le FC Bâle et le FC Thun. Quant à moi, je vous souhaite un excellent week-end. À très bientôt. Cap Sport.